La guerre, la paix et entre les deux, les attaques hybrides. L'Allemagne vient d'accuser la Russie d'une tentative d'attentat sur son sol. Deux drones explosifs avaient en effet été découverts à l'aéroport de Leipzig. Pour Berlin et ses alliés, c'est Moscou. Mais à Moscou, on nie, comme à chaque survol de drone, brouillage d'avion ou cyberattaque, la méthode est rodée. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois un journaliste spécialiste des Pays-Baltes, Olivier Truc, car les Pays-Baltes, c'est l'autre front de la guerre hybride menée par la Russie. Ce journaliste vient de signer un livre sur une opération fictive, l'opération Yantar, sous-titre « Juin 2029, la Russie attaque les Pays-Baltes ». Une fiction ou de l'anticipation, nous poserons la question et on se demandera si la France, elle aussi, court le risque d'être visée par Poutine. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue.
Un incident mystérieux est survenu en Allemagne, plus précisément à l'aéroport de Leipzig. Il a donc été touché hier soir par un objet suspect qui était à proximité des avions. L'aéroport a donc été bouclé.
L'avion Antonov, c'est un avion cargo ukrainien, l'un des plus grands sur le marché. Une nuit d'août, la nuit du 4 au 5, plusieurs de ces avions sont alignés sur la zone sécurisée des opérations de fret de l'aéroport de Leipzig. On est dans l'est de l'Allemagne. Pour le pays et ses alliés de l'OTAN, cet aéroport joue un rôle essentiel dans la logistique du soutien à l'Ukraine pour l'aider dans sa guerre contre la Russie. Du matériel transite très souvent ici. Mais cette nuit-là, un drone est découvert à proximité d'un des avions ukrainiens. Et le drone est chargé d'explosifs. Grâce à un robot de la police, il est neutralisé à temps. Pas d'explosion, peut-être aussi parce que le détonateur était défaillant. Quelques minutes plus tard, un autre drone heurte un avion cargo de l'entreprise DHL cette fois. Cet engin comporte lui aussi des traces d'explosifs militaires, de l'exogène.
L'enquête avance, mais le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, qui a tenu un point presse hier soir, explique qu'il va falloir laisser le temps aux enquêteurs, le temps de faire leur travail, puisque, selon lui, cet incident est l'œuvre de professionnels. Ce ne sont pas des amateurs qui sont derrière la fabrication de ce drone, mais bien des professionnels.
Salomé Hénon-Sohin, correspondante de BFM TV en Allemagne le lendemain.
Alexander Dobrindt, le ministre de l'Intérieur, ne parle pas d'un pays particulier. Il parle d'une puissance étrangère qui pourrait être à l'origine de cette attaque hybride. Puissance étrangère dont le but serait de semer l'insécurité en Allemagne.
Des puissances étrangères pourraient être impliquées. Mais lesquelles ? Berlin ne va pas jusqu'à désigner un responsable jusqu'à ce mardi 1er septembre.
La Russie est responsable de l'attaque hybride survenue à Leipzig.
Alexander Dobrindt, ministre de l'Intérieur allemand.
Nous estimons que l'Allemagne pourrait être la cible de nouvelles attaques hybrides russes. Nous considérons également que la Russie pourrait être prête à mener des attaques hybrides susceptibles de causer des dégâts plus importants.
Dans la foulée, la police allemande identifie deux hommes suspectés d'avoir guidé le drone jusqu'à l'aéroport. Deux hommes avec un passeport russe. Ce qui les incrimine, leurs traces ADN retrouvées sur l'un des drones, dans une boîte de conserve remplie d'explosifs et sur une antenne fixée non loin sur un arbre.
Ces attaques hybrides ?
Guerre hybride.
Guerre hybride.
La guerre hybride.
Ces attaques hybrides.
Des attaques hybrides. C'est l'expression utilisée par le ministre allemand. En fait, tout le monde utilise cette expression. Quand des drones survolent la Pologne ou la Roumanie en septembre 2025, quand l'avion de la présidente de la Commission européenne est victime d'un brouillage GPS en août 2025 aussi, ou quand une cyberattaque menace de couper l'électricité d'un demi-million de Britanniques, comme c'est arrivé cet été. À chaque fois, les Occidentaux attribuent ces attaques à la Russie, son armée, ses services de renseignement, et à chaque fois, Moscou le nie. Ou ignore.
En fait, la Russie s'adapte à chaque pays. L'Allemagne, il y a des possibilités, notamment dans le côté l'ex-Allemagne de l'Est, d'avoir des actions violentes.
Patrick Sauss, chef du service international de BFM TV.
Épidémie d'attentats. On a beaucoup parlé hier de ces drones, mais en ce moment, il y a des postes électriques qui sautent. Il y a des lignes électriques qui sont victimes d'explosions. On ne sait pas qui c'est, mais ça génère
parce qu'il y a une élection spéciale.
En France, il y a, au-delà de la possibilité d'action violente, les Russes le savent, la possibilité de faire du travail de sape dans le doute envers les différents gouvernements. Le fait que, ceux qui nous gouvernent nous mentent, qu'il y a plusieurs vérités. Et puis, évidemment, lorsqu'il y a un point de vue, notamment de la part d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, on va sur le registre du va-t-en-guerre. Ça, c'est de la désinformation. Et en plus, parfois à des heures de grande écoute.
Mais quel est l'intérêt de ces incursions aériennes, de ces attaques cyber, d'opérations de sabotage, de tentatives d'assassinat parfois, de campagnes de désinformation ? Faut-il comprendre qu'une guerre hybride est une guerre qui se mène dans l'ombre ? Cela permet à Moscou de déstabiliser, certes, mais sous le seuil du conflit. Pas d'attaque à découvert, pas d'escalade, pas de guerre. C'est d'ailleurs la conclusion du ministre de l'Intérieur allemand, une fois ces accusations formulées contre la Russie.
Le gouvernement fédéral réagit à cette attaque hybride à Leipzig de manière mesurée et prudente, mais tout aussi déterminée. Permettez-moi d'être très clair. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes chaque jour la cible d'une guerre hybride.
On peut donc répondre à une attaque hybride, mais de façon mesurée et prudente. Résultat, l'Allemagne va fermer le dernier consulat russe sur son sol, celui de Bonn, mais aussi le centre culturel russe de Berlin, la maison russe, un nid d'espions. Berlin va aussi demander de nouvelles sanctions économiques contre des ressortissants russes, idée soutenue par les alliés occidentaux.
Il est très clair qu'une fois encore, c'est une ingérence.
Le président français Emmanuel Macron.
C'est cette guerre hybride, au fond, que nous mène la Russie, qui est ainsi documentée. Je vais ici redire notre plein soutien à l'Allemagne et au travail.
Le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne sont sur la même ligne. L'Estonie accuse carrément Moscou de terrorisme d'État. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va dans le même sens.
Je tiens donc à être très clair sur ce dont il s'agit. C'était une attaque menée avec du matériel de qualité militaire par des agents russes sur le sol de l'Union européenne. Nous ne le tolérerons pas. Nous sommes pleinement solidaires de l'Allemagne et si l'intention était de nous faire hésiter à soutenir l'Ukraine, je peux vous dire que cela n'a fait que renforcer ma détermination.
De son côté, comme à chaque fois, Vladimir Poutine dément, la Russie n'est liée en rien à la présence de ces drones à Leipzig.
Je considère qu'il s'agit d'une nouvelle erreur grossière et à mon avis, elle va clairement à l'encontre des intérêts du peuple allemand.
Dans le dernier épisode, je vous ai raconté la paranoïa de Vladimir Poutine, sa peur d'être renversé. Cette fois, je me penche sur la menace qu'il constitue, lui, pour les pays européens. Bonjour Olivier Truc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis Stockholm, en Suède, puisque vous connaissez très bien à la fois les pays nordiques et les pays baltes. Si on en parle avec vous, c'est parce que vous venez de publier un livre, un roman graphique intitulé « Opération Jantarst » aux éditions des Arènes. On est en 2029, un an après un cessez-le-feu durement signé entre la Russie et l'Ukraine. Une zone tampon est instaurée à Zaporijja et ce lieu se trouve la cible d'un attentat. Alors là, tout s'emballe, désinformation, fausses manifestations, armées factices de la Russie pour faire diversion. Jusqu'au dénouement de votre livre, je le dévoile, mais ce n'est pas le plus intéressant finalement, c'est tout ce qui survient pour en arriver là. La Russie attaque les pays baltes et donc l'OTAN. Les attaques hybrides dont on a parlé dans le récit, c'est nécessairement pour passer de la paix à la guerre.
Tout ce qui est guerre hybride, c'est la guerre avant la guerre en quelque sorte. C'est-à-dire que le principe de la guerre hybride, c'est de mener des opérations qui, dans l'absolu, ne doivent pas être attribuées, ne doivent pas passer sous les radars, en quelque sorte. C'est ce qui est en train de changer maintenant. On l'a vu avec déjà depuis un peu plus d'un an, avec la France qui a commencé à attribuer, c'est le terme qui est employé, attribuer à la Russie certaines attaques. Et c'est ce qu'on a vu ces derniers jours avec l'Allemagne, qui a attribué à la Russie cette attaque ou cette tentative d'attaque avec un drone sur l'aéroport de Leipzig. Et donc ça, c'est vraiment un domaine où les Russes sont très très bons depuis longtemps, hein, bien avant la guerre d'Ukraine. Les Ukrainiens vous diraient qu'eux, ils subissent cette guerre hybride depuis déjà très longtemps, déjà bien avant l'annexion de la Crimée en 2014, et que l'Ukraine est en quelque sorte un espèce de laboratoire de la guerre hybride pour les Russes, méthode qu'ils déploient là-bas et qui vont ensuite tester sur l'Europe comme ils le font actuellement.
Qu'attendent les Russes lorsqu'ils font de telles opérations en Europe, que ce soit en Allemagne ou en France lorsque ça se produit?
On n'est pas dans le cerveau des Russes, mais ce qu'on peut assez facilement voir, c'est que ce qu'ils cherchent à faire, c'est semer le désordre, le chaos, déstabiliser. Ils cherchent pas à nous convaincre de devenir des pro-Poutine, c'est pas ça du tout leur objet. Un des principes de la guerre hybride, tel qu'on a pu l'observer ces dernières années, par les opérations qu'ils mènent, c'est en fait de polariser les populations européennes, les monter les unes contre les autres. Donc ils savent très bien manipuler les réseaux sociaux pour ça. Ce qui se passe maintenant, ça se passe aussi au niveau de l'intelligence artificielle, qui est nourrie notamment de toutes sortes de récits, notamment ceux qui sont faits par les Russes, et qui se mélangent après quand on fait des requêtes auprès de l'IA. Ben, tout ce qui vient aussi, tous les éléments de guerre hybride sont mélangés sans que l'utilisateur en ait conscience. Donc c'est tout ça qu'ils sont en train de faire. Une fois encore, c'est pas pour nous convaincre qu'ils sont les meilleurs, mais c'est pour nous affaiblir.
En tout cas, ce qu'on comprend à la fois au prisme de l'actualité et de votre roman d'anticipation, c'est que là où les Russes sont les meilleurs, c'est bel et bien dans la guerre hybride. Dans ce registre-là, ce sont eux qui jouent à domicile. En face, les Européens, l'OTAN, ont une riposte défensive en remettant, par exemple, quelques sanctions économiques contre des citoyens russes, mais pas de méthode à proprement parler de dissuasion. Les Européens n'ont pas les moyens, pas la volonté politique de dissuader les Russes, ou alors ce n'est simplement pas dans leur culture, cette frilosité d'entrer en guerre.
Non, mais en fait, comme les Russes le montrent très bien, et comme les Européens ou l'Occident est capable de le faire, il y a différentes façons de mener des guerres. Et c'est vrai que c'est une des questions qui se posent depuis ces dernières années, depuis que l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, c'est comment riposter quand on est une démocratie. C'est-à-dire que les Russes utilisent certaines méthodes, espionnage, mais ça on le pratique aussi, sabotage, on est capable de le faire aussi, je pense, mais toutes ces guerres d'influence, la façon dont on manipule les populations, parfois avec des résultats qui sont, peu importe les résultats, je dirais, tant que ça crée du chaos. Et ça, c'est vrai que c'est les questions que nous, en tant que démocratie européenne, les questions se posent dans certains milieux, jusqu'où on peut aller, sachant que on a ses limites, qu'on s'impose nous-mêmes de pas aller faire pareil chez les Russes.
Et est-ce que se poser cette question, c'est aussi donner un point à Poutine? Parce qu'on peut se dire, c'est lever un tabou pour riposter comme il se doit, mais c'est aussi peut-être renier des valeurs qui fait qu'on est un adversaire démocrate face à Poutine.
Oui, mais ça, c'est le piège éternel d'une démocratie. Je veux dire, à partir du moment où on admet le fait qu'on privilégie un régime démocratique, ça, par définition, ça repose sur des valeurs qui sont différentes de celles d'un régime autocratique. Donc on s'interdit d'utiliser cette méthode. Ça ne veut pas dire que certains services ne procèdent pas autrement, services occidentaux, mais disons qu'on ne le fera pas au grand jour. Voilà, mais c'est des questions qui sont évidemment très discutées actuellement. Les choix des Russes ne sont pas innocents non plus. Hein, ils savent très bien, en fait, quand ils mènent des opérations hybrides, qui sont à très très bas coût, puisque un drone, ça ne coûte rien. Mais vous voyez le bazar que ça fait dans toute l'Europe. Quoi.
Un drone, ça ne coûte rien, mais une guerre, et on le voit en ce moment avec ce que fait la Russie en Ukraine, ça coûte de l'argent, ça coûte des hommes et ça prend du temps jusque-là. Et c'est une phrase d'ailleurs de votre livre, on se dit les Russes ne sont pas assez fous pour s'en prendre à un pays membre de l'OTAN. Vous faites l'hypothèse que si, c'est une finalité qui pourrait advenir.
C'est-à-dire que vous savez, si vous vous rappelez, en début 2022, fin 2021, la majorité des gens pensaient que Poutine ne serait pas assez fou pour aller envahir l'Ukraine. Et puis tout le monde, ou quasiment tout le monde, s'est trompé, moi y compris. Donc après, dire aujourd'hui, il est pas, c'est vrai qu'un des personnages du roman graphique dit ça, et on est contredit en permanence. Donc la difficulté, c'est comment on se prépare à ça, comment on continue à réussir à mobiliser les populations, sachant que ben, on est dans des économies qui sont très contraintes. Les Russes, une fois encore, sont on n'est pas dans la tête de Poutine, hein, mais on sait qu'ils ont cet esprit un peu de vouloir reconstituer leur fameux empire, qu'ils se sentent menacés dans leurs frontières, même si aucun pays européen, a priori, n'a exprimé l'idée d'aller envahir la Russie. Hein. Mais bon, c'est leur mode de pensée. Et là-dessus, on est un peu sans pouvoir vraiment avoir de bonnes réponses par rapport à ça.
Même si l'armée russe n'est pas aussi puissante que l'ensemble des armées européennes agrégées, la capacité militaire n'est pas un problème dans ce cas-là ?
Une fois encore, on retombe sur le type d'opération qui est menée. Dans l'opération Yantar, ce roman graphique, c'est pas d'énormes quantités d'hommes qui sont mobilisés en apparence pour cette opération où ils vont attaquer, ils vont mettre un pied dans les pays baltes en prenant un prétexte parce que les Russes veulent toujours donner un vernis légitimiste à leurs actions quelles qu'elles soient. Et en l'occurrence, ils vont prétexter le fait que des bases de l'OTAN dans les pays baltes soient occupées. Pour entraîner ce qu'ils appellent des fascistes ukrainiens qui sont revanchards, qui n'acceptent pas le cessez-le-feu. Et les pays baltes, c'est petit pays, hein. En 24 heures, on traverse le pays en char. Donc c'est pas du tout la même implication militaire qui est nécessaire. Et en plus, ce sont des pays où il y a des populations en Estonie, Lettonie, vous avez des populations russophones qui représentent à peu près 30% des populations. Dans mon roman, l'opération de déstabilisation repose sur l'agitation de la population d'une minorité polonaise en Lituanie, qui est très solidaire des populations russophones d'Estonie et Lettonie, qui passe beaucoup souvent sous les radars. Mais ça veut dire qu'on peut très facilement, en fait, d'un point de vue russe, c'est ce que les cercles de l'OTAN travaillent en permanence, hein, sur les plans qu'ils préparent. Les leviers sont nombreux et dans cette région assez faciles à agiter, à activer en fait.
Et en France, on a entendu ces jours-ci la patronne du renseignement intérieur français, Céline Berthelon, dire « Les psyches, c'est un signal sur le fait que nous devons, nous en France, considérer de possibles actions hostiles, plus directes, violentes sur notre territoire national. Jusqu'où est-ce que ça peut aller dans le cadre notre pays ?»
On voit que depuis plusieurs années, alors que le front ukrainien, le front entre la Russie et l'Ukraine est quasiment gelé depuis 3 ans, hein, ça a très très peu bougé, donc les forces russes se heurtent à un os, on parle peut-être d'une mobilisation côté russe cet automne, donc la Russie essaye de s'en prendre aux alliés de l'Ukraine, donc les pays européens, et d'essayer de les déstabiliser comme ils peuvent. Alors peut-être qu'ils vont monter en puissance, ils ont moins peur, puisque maintenant les pays européens, l'Allemagne ces derniers jours, la France depuis un petit peu plus longtemps, n'hésitent plus, si vous voulez, à attribuer à la Russie des actions hybrides, j'ai envie de dire que ça ouvre un peu la porte à une montée en puissance de ces opérations hybrides où les Russes, quelque part, n'ont plus besoin de se cacher nécessairement et vont aller petit à petit essayer de voir comment ça réagit, en fait.
Aujourd'hui, toutefois, ces attaques hybrides ne font pas de victimes sur ces pays-là. C'est une des limites de Moscou.
Vous savez, il y a des opérations hybrides qui sont menées dont on n'a pas connaissance aussi, je pense. On voit très bien comment ils procèdent en Ukraine. Une fois encore, l'Ukraine sert de laboratoire hybride pour les opérations hybrides de la Russie contre l'Europe. Ils testent là-bas. Et on voit très bien, moi j'ai suivi, j'étais pas mal en Ukraine ces dernières années, et les gens des services de renseignement nous mettent en garde depuis longtemps sur dire « ils testent chez nous ». Et ça va venir chez vous. Et comment ils manipulent par les réseaux sociaux, ils trouvent des tas de gens, de jeunes, de retraités, des gens qui manquent d'argent, et pour la promesse d'un petit peu d'argent, vont aller porter un sac sans savoir qui c'est, puis le sac, il va aller porter à un autre endroit, puis des relais comme ça de gens qui se connaissent pas. Et puis quelqu'un va se retrouver avec un sac dans un supermarché, et à distance, quelqu'un va activer une bombe dans ce qui s'est passé plusieurs fois en Ukraine. C'est ce qu'on craint beaucoup, que ça se reproduise ailleurs, dans des supermarchés, comme ils le font. Donc, est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des tas d'opérations qui ont été menées déjà côté russe. Comme vous le dites, très justement, pour l'instant, a priori, sans faire de victimes. Jusqu'où ils seront prêts à aller, je ne sais pas. Et il faut espérer qu'ils franchiront pas ce pas-là.
Dans votre roman graphique, vous faites donc l'hypothèse que le soldat russe qui passera une frontière de l'OTAN, ce sera en juin 2029, à l'aune de cette actualité toute fraîche dont on parle, notamment Leipzig, ce qui s'est passé cet été. Vous dites que ça peut advenir avant.
La question qui est posée dans l'opération Yantar, c'est une intervention humaine sur le terrain. On n'est plus dans la guerre hybride, même si c'est précédé par plein d'opérations hybrides à différents niveaux. Mais là, ce sont des hommes qui franchissent la frontière, donc c'est plus seulement un drone. Donc on change de dimension. Est-ce que ça ira jusque-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait des années en fait que les Russes déjà nous testent, nous provoquent. Ils étaient, je pense, l'an dernier ou il y a un an et demi, que le chef des services secrets allemands, qui a changé de fonction maintenant, posait la question de savoir est-ce que, face à cette guerre hybride qui monte en puissance, est-ce que l'OTAN doit être en mesure d'activer le fameux article 5 qui rend solidaire tous les pays de l'OTAN, d'un pays de l'OTAN attaqué. Donc c'est des questions qui se posent à très très haut niveau. Et quelle est justement où se situe la jauge, jusqu'à quel niveau, à partir de quel moment de guerre hybride on dit ben on appuie sur le bouton, on y va et on répond. Et la question est donc alors, comment on répond, c'est ça qui agite les états-majors et les politiques bien sûr.
Et votre livre est un petit peu un laboratoire de toutes ces questions. Opération Yantar, c'est donc paru aux éditions des Arènes et c'est co-signé avec Nicolas Otero qui en fait les dessins puisque c'est, je le disais, un roman graphique. Merci Olivier Truc d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci à vous.
Merci à Yanis Mesdour pour la réalisation de ce podcast, à Naël Aubeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.